Good Morning Business, face à le chiffre.
Et je suis ravie que vous ayez proposé ce thème, parler du Bitcoin ce matin. Emmanuel Le Chypre, en dessous des 66 000 dollars, me semble-t-il. Alors, la promesse d'accord, du protocole d'accord de vendredi, a redonné un petit peu d'air à la reine des cryptos. Mais on s'attend à quoi? Qui commence, hein? Parce qu'on connaît l'opinion de Jean-Marc Daniel sur le Bitcoin. Qui commence?
Est-ce que Jean-Marc veut commencer?
Ah non,
allez, Jean-Marc.
Je peux commencer, rappeler un certain nombre d'éléments sur une aventure qui a commencé il y a un peu moins de 20 ans maintenant, cette histoire de Bitcoin.
2008, oui.
Et donc, ce qui me frappe dans cette saga, puisque c'est une saga, on en parle et tout ça, dans cette saga, mais c'est un peu comme je parlais hier des contes de Grimm, c'est une version tragique des contes. Et donc, on a commencé avec l'idée que...
Mais les contes de Grimm sont tragiques, Jean-Marc.
Oui, absolument, oui, donc c'est une version un peu contes de Grimm, c'est une version contes de Grimm. Et donc, l'objet initial de cette saga, c'était effectivement de contourner les banques centrales qui avait failli et d'essayer de créer une nouvelle monnaie. On parlait de crypto-monnaie en s'appuyant sur des prouesses technologiques en matière de traitement de l'information et de gestion de cette information par les ordinateurs et par les data centers. Bon, on est arrivé maintenant à une situation où en tant que monnaie, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les échanges continuent à se faire essentiellement dans les monnaies officielles, ne serait-ce que parce que ces
monnaies... Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Oui, mais ces monnaies officielles sont protégées par la loi. C'est une de mes antiennes. C'est de rappeler régulièrement que le code monétaire et financier en France commence par un article premier qui dit que la monnaie en France, c'est l'euro. Et donc, c'est devenu des crypto-actifs. C'est donc des éléments qui permettent de faire des placements et d'essayer de jouer, sur la volatilité. C'est-à-dire que c'est un placement qui est extrêmement volatile, un peu comme certaines matières premières. Et donc, on parle de 65 000 dollars. On était à 125 000 dollars il y a encore 6 mois. Alors, on s'en rapproche en ce sens de la volatilité qu'il y a par exemple sur les cours de l'or, puisque sur les cours de l'or, maintenant on est aux alentours de 4500 dollars l'once et on était monté à 5300 dollars l'once. Donc là aussi il y a cette forme de volatilité, mais derrière cette volatilité il y a simplement le fait que quand vous achetez quelque chose comme le Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie en vous disant que ça va monter, c'est que vous espérez qu'il y a quelqu'un qui va faire le calcul qui va faire le même calcul, c'est-à-dire qui va dire ça va continuer à monter. Et ce quelqu'un...
C'est de la confiance.
C'est de la confiance. Et à ce quelqu'un, à un moment donné, vous finirez par lui revendre si ça a effectivement monté. Sauf que, de temps en temps, comme les arbres ne montent pas au ciel, ça se retourne. Donc, comme objet spéculatif, c'est un objet qui est extrêmement dangereux. Et comme le disait notre maître à tous, Maurice Allé, la grande différence qu'il y a entre l'investisseur avisé et le spéculateur avide, c'est 10 minutes. C'est-à-dire, l'investisseur avisé, c'est celui qui vend au dernier moment, juste avant le retournement, et le spéculateur avide, c'est celui qui lui achète. Mais on ne le sait pas, a priori, qui est l'investisseur avisé et qui est le spéculateur avide. On est dans une phase où, en ce moment, les spéculateurs avides sont en train de prendre plus ou moins le bouillon. Et donc, je pense que c'est un objet qui est un objet qui, sur le plan économique, n'a pas de sens et sur le plan de placement, est dangereux. Dernière remarque que je ferai, c'est que, pour essayer de répondre à ça... On a essayé de se tourner au travers des stablecoins vers le dollar. C'est-à-dire, on est en train de transformer le crypto-monnaie en une sorte de masque du dollar. C'est-à-dire, c'est un aveu d'échec. Le projet, c'était de se substituer au dollar et la confirmation de tout ça, l'installation de tout ça repose sur... Mais c'est du dollar.
Le stablecoin, d'accord. Le bitcoin, pas vraiment. Emmanuel Le Chypre.
Ah, je pense que je suis en tout point opposé à ce que vient de dire Jean-Marc. Je pense qu'il y a, une histoire qui est en train de s'écrire. C'est celle de l'informatisation du monde. Et que les crypto-monnaies correspondent à la version monétaire de l'informatisation du monde. C'est une informatisation de la monnaie. Alors, on dit le bitcoin, ça n'est pas une monnaie. Alors, on connaît la définition de la monnaie, hein. Unité de compte, moyen d'échange, réserve de valeur. Mais j'ai envie de vous dire, l'or, vous n'allez pas acheter votre baguette avec de l'or. Et pourtant, l'or, c'est une réserve de valeur. Or, le Bitcoin est en train de devenir une réserve de valeur. Oui. Et l'histoire montre en plus que les actifs monétaires deviennent d'abord une réserve de valeur avant de devenir un moyen d'échange. Sur les crises que traverse le Bitcoin, mais les marchés ont quand même déjà très largement tranché. Jean-Marc l'a dit, le Bitcoin existe depuis 17 ans. Il a eu des cracks de 70 à 80%. Il a survécu à la faillite de plateformes, aux interdictions chinoises, aux critiques des banques centrales. S'il n'avait vraiment aucune utilité, il aurait dû disparaître depuis longtemps. Et puis, les institutions sont entrées en jeu. C'est-à-dire que d'une espèce de monnaie pirate, c'est une monnaie qui est devenue quasiment corsaire, puisque les grands gestionnaires d'actifs, BlackRock, Fidelity, etc., proposent des produits en Bitcoin. Certaines entreprises en ont dans leur trésorerie. Vous avez des gouvernements qui en achètent. Donc, on a cette reconnaissance, cette institutionnalisation. Et puis, le Bitcoin, il répond quand même à un vrai problème, qui était la défiance envers le système financier, envers les banques. Donc, moi, je pense pas que sa vocation, c'était de remplacer le dollar. Je pense que le Bitcoin peut tout à fait exister à côté des grandes monnaies sans avoir comme mission de les remplacer. Donc, le Bitcoin, c'est un actif. Et alors, la petite taille, la rareté, moi, je veux bien, mais on peut dire la même chose de l'or. Sauf que la rareté de l'or, elle est organisée par la nature. La rareté du Bitcoin, elle est organisée par le protocole.
Oui.
Voilà. Donc, moi, je crois pas que ça, ce soit un obstacle. C'est un actif qui existe. C'est un actif qui a son utilité. Et c'est un actif qui a une longue vie devant lui.
C'est complémentaire, Jean-Marc.
Non, je pense que pour
30 ajouter, secondes.
Oui, 30 secondes. Deux éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, il y a toujours eu, alors sans revenir aux tulipes hollandaises et tout ça, il y a toujours eu des projets, des produits qui étaient des projets et des produits qui faisaient fantasmer. Et puis, il y a un élément qui est un élément qu'on commence à mettre assez souvent en avant, dont je n'ai pas parlé, mais qui est le côté consommation d'électricité. C'est-à-dire, que est-ce qu'on a véritablement intérêt à utiliser de l'électricité pour faire cet objet ?
Parler du minage.
Du minage, c'est-à-dire du fait que...
c'est pour ça que les mineurs se mettent sur des barrages hydroélectriques et sur des
voilà,
sources
où... Je pense qu'on a
je vois que j'ai en Sandra une alliée.
Voilà, exactement.
Ah, mais ça, je vois
non,
aussi,
non,
oui.
Non, cet argument-là, il n'est plus du tout. Mais il faut regarder BFM Crypto pour le savoir.
La spécialiste des Bitcoins, voilà,
exactement.
Voilà, sur BFM.
Merci, messieurs.
Elle est juge, mais partie.
Merci.